Alors, comme vous le savez, il y a une continuité dans mes prédications, même si de temps en temps, il y a un autre qui vient apporter l'exhortation, ce qui fut le cas la semaine dernière. Et donc, moi, je fais dans la continuité de la prédication, dans le sens de cette vision que nous mettons en place au sein de l'Église. Alors, je ne vais pas revenir en arrière systématiquement tous les dimanches, mais j'ai prêché trois fois sur une Église qui exalte Dieu et son Fils Jésus-Christ. Donc, j'ai mis l'accent sur l'adoration, sur la louange, sur l'exhortation, sur le fait que nous devons louer et adorer ensemble, et cela autant individuellement que dans le sens de la communauté. C'est très important de le faire, comme vous pouvez le constater. Le dimanche matin, c'est pas uniquement que la prédication, l'exhortation, il y a aussi un temps où nous devons louer et adorer le Seigneur. Le deuxième mot qui se trouve dans la vision de l'Église, c'est une Église qui s'édifie. Alors, après avoir cherché un petit peu dans la parole de Dieu, quelques versets aussi par rapport à ce mot qui se trouve dans la parole de Dieu, je voudrais citer un verset pour l'instant, en tout cas au démarrage du culte de ce matin, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11, où nous avons ce mot qui vient là. Alors l'église de Thessalonique, juste pour la remettre dans son contexte, c'est une église qui est jeune. Quand Paul écrit, c'est une église qui se pose toutes sortes de questions, et surtout sur la venue du notre Seigneur Jésus-Christ, sur son retour pour la deuxième fois. Et il s'interroge sur cette question, et l'apôtre Paul va les encourager, va leur dire à un moment donné, au verset 11, donc du chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. C'est quelque chose qui se vivait dans l'église de Thessalonique. C'est quelque chose qui était courant dans l'église de Thessalonique. Alors j'ai regardé un petit peu le mot dans le dictionnaire. J'ai laissé quelques instants l'épître aux Thessaloniciens. Et je suis allé dans mon petit dictionnaire Robert, que j'ai dans mon bureau, pour regarder un petit peu cette définition que nous avons dans les dictionnaires aujourd'hui. Que signifie le mot édifier dans le dictionnaire aujourd'hui? Alors ça vient du latin, encore une fois, un petit peu de connaissance, ça n'abîme pas la cervelle, enfin en tout cas je ne pense pas. Alors le mot édifier vient du latin edificare, qui est un mot qui est composé de deux mots, edes, donc édile, et facere, qui veut dire faire. Donc dans la première définition du petit Robert, vous avez donc le mot qui dit que édifier signifie bâtir un édifice, une maison ou un bâtiment. Mais le mot a une deuxième définition dans les dictionnaires, dans un sens abstrait. Le mot édifier veut aussi signifier établir, porter quelqu'un à la vertu ou à la piété. Voilà ce que nous avons dans le dictionnaire, donc dans sa définition. Alors, personnellement, la première définition, je la comprends. Personnellement, j'ai construit une maison il y a quelques années en arrière avec mon épouse. Je comprends l'idée de construire un édifice, de construire un bâtiment. On comprend cet aspect. Mais est-ce que nous comprenons aussi cet aspect d'édifier quelqu'un dans sa vertu ou dans sa piété? Parce que quelque part, nous devons construire les uns les autres un édifice. Mais nous devons aussi nous porter les uns les autres à une vertu, à la piété. C'est-à-dire que, quand vous rentrez dans l'église le dimanche matin, vous devez vous porter, établir, je disais, dans le sens de l'édification commune. Jean Calvin disait ceci, j'ai trouvé ça cette semaine, j'ai trouvé ça superbe, il était inspiré, ce frère, vivez avec votre Église afin que votre Église vive. Je répète, ce n'est pas un verset de la Bible, mais c'était très inspiré ce qu'il disait. Vivez avec votre Église afin que votre Église vive. L'Église est un corps vivant, nous le savons. L'Église n'est pas un corps mort. L'Église n'est pas un cimetière. Elle peut devenir un cimetière. Elle peut devenir un corps mort si nous ne faisons pas attention, si nous désobéissons à la parole de Dieu. Mais elle peut même devenir, ça arrive parfois, un champ de bataille. Mais la Bible nous demande de nous édifier les uns les autres. Et c'est important de le comprendre dans sa totalité. C'est-à-dire, le dimanche matin, quand vous venez, votre but, frères et sœurs, et je voudrais vous le dire en toute honnêteté, ça va être enregistré. Donc, tout ce qui est dit, c'est enregistré. Votre but, c'est de ne pas partir après le culte en courant dans votre maison. C'est de vous édifier les uns les autres. On va regarder ça un petit peu plus dans le détail, si vous voulez bien, parce que c'est l'aspect que je comprends de l'Église. Je comprends bien que même le dimanche, il nous arrive d'avoir des responsabilités, d'avoir des fois un travail l'après-midi, ou de recevoir du monde. Je comprends bien tout ça. Mais en même temps, la parole nous dit qu'une Église, c'est aussi un moment de partage. Durant la semaine, on n'a pas l'occasion forcément de se rencontrer. Durant la semaine, on n'a pas forcément l'occasion de s'envoyer un SMS, pour parler dans le sens moderne. Dans la semaine, nous n'avons pas forcément l'occasion de téléphoner, ou de voir ce que nous avons à dire sur Facebook, ou sur Instagram, ou toutes sortes d'autres choses qui se passent bien souvent. Mais l'occasion nous est donnée quelques instants, de mettre de côté ce foutu téléphone, pardonnez-moi de cette expression, de mettre de côté ce foutu téléphone et de prendre du temps de partager avec le frère et la sœur qui est là à côté de nous, que le Seigneur a mis au sein de l'Église locale. Alors, la première chose que je voudrais qu'on partage ce matin, c'est l'image de la construction que nous avons dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit que le métier de Jésus était charpentier, vous le savez. Matthieu chapitre 6, verset 3, nous dit que Jésus a exercé ce métier, le métier de charpentier. Alors après quelques recherches, à quoi consistait le métier de charpentier à l'époque de Jésus et même avant Jésus? Eh bien, le métier de charpentier est mentionné pour la première fois dans Exode chapitre 25, pour la construction du tabernacle dans le désert. Le Seigneur va se servir des charpentiers de l'époque pour construire le tabernacle dans le désert. Et dans l'Antiquité, un charpentier, eh bien, construisait des plafonds, des portes, des fenêtres, des escaliers, du mobilier, donc des lits, des fauteuils, des chaises, des tables, des tabourets, tout ça faisait partie du métier du charpentier. Mais en même temps, vous avez aussi, le métier de charpentier consistait aussi à fabriquer des outils, des charrues, des jougs pour les animaux, des outils pour battre le blé. Enfin, tout ça, ça correspond au métier de charpentier que nous trouvons dans la Bible. Il est même dit que le charpentier, celui qui était un petit peu habile, qui avait le ciseau facile et le marteau pour taper, eh bien, certains étaient des sculpteurs, vous avez cela dans Exode, chapitre 31, versets 5, 35 et 33 aussi, nous en parle. Donc, vous avez ce métier qui était à l'époque très important, et qui était une chose importante puisque Jésus le faisait lui-même. Alors quand il dit « Je bâtirai mon Église », Il sait de quoi il est en train de parler, notre Seigneur Jésus-Christ. Les maisons palestiniennes étaient des maisons très simples, c'est pas comme aujourd'hui. Bien souvent, elles étaient carrées. Il y avait une chambre commune, tout le monde dormait dans le même endroit. Quand il faisait trop chaud, ils allaient au premier étage, donc sur le toit. Les gens allaient dormir sur le toit à la belle étoile. Mais en règle générale, les maisons étaient très simples à l'époque. Mais aujourd'hui, une maison, il faut un menuisier pour les fenêtres, un couvreur pour la charpente, il faut un plombier pour les gouttières, et il faut un plâtrier pour les plafonds. Donc ça s'est diversifié, ce métier. Mais à l'époque, eh bien, il y avait tout le métier de charpentier était un métier où il englobait plusieurs métiers, et nous le voyons au travers de la vie de Jésus, c'est que son métier était cela, donc il englobait autant les outils que les matériels que certains avaient besoin pour l'agriculture, et en même temps, quand on demandait à Jésus, écoute, et à Joseph, son papa, j'ai besoin de faire un escalier à la maison, eh bien Jésus était capable de le fabriquer. Donc, l'image de la construction se voit dans la Bible, et même les apôtres l'ont repris plusieurs fois, cette image, pour construire, pour parler de la construction de l'Église. Nous voyons aussi que le mot édifié dans la Bible a aussi cette idée d'encourager dans la croissance, dans la sagesse, dans la piété, dans le bonheur, dans la sainteté. Ce mot-là se trouve dans la Bible et il revient 20 fois dans le Nouveau Testament, mais on le voit aussi dans l'Ancien Testament. Et le mot, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, a l'idée, la même chose que vous avez dans le Nouveau Testament, donc c'est de bâtir, rebâtir, établi dans l'Ancien Testament, et ça a l'idée de construction ou d'édifice dans le Nouveau Testament, ça a exactement la même chose. Donc, le mot édifier, ça contribue à une construction. Donc, nous devons nous construire les uns les autres. Et non pas de mettre des murs devant nous. Hein. Ce n'est pas le but. Hein. Le but n'est pas de mettre des murs devant nous, mais nous construire autant dans le sens simple du mot que dans le sens figuré. Le mot édifier, donc, dans quelques contextes de la Bible. Je ne pouvais pas regarder les 20 passages. Ça aurait été impossible, et moi je vous encourage à prendre un dictionnaire de la Bible et à regarder le mot, il y a plusieurs passages, mais c'est intéressant de voir certains passages pour qu'on puisse les comprendre ensemble ce matin. Par exemple, premier passage, Romains chapitre 14, verset 19. C'est l'apôtre Paul qui parle, il écrit à une église qui vivait un petit peu quelques tensions au sein de l'Église. Et vous le voyez, vers la fin, Paul encourage bien sûr l'Église de Rome, mais vers la fin, quand il arrive à la conclusion de sa série d'exhortations, eh bien il s'aperçoit qu'il y a une tension au sein de l'Église. Et voici la tension qu'il y a au sein de l'Église, et le verset qu'il va donner au verset 19. Il va dire: ainsi donc, recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Donc l'apôtre Paul voit qu'il y a un problème dans l'Église et il va dire, recherchez mes frères et sœurs ce qui contribue à la paix et à l'édification commune. Alors qu'est-ce qu'il devait contribuer à la paix? Les uns pensaient pouvoir manger de tout, selon leur conscience. Oui, je peux manger le boudin rouge, pas de problème. Comme il y a quelques Antillais, je peux me le permettre, ce genre de choses. Je peux manger le boudin blanc, pas de problème. Mais il y avait une tension au sein de l'Église, parce que certains disaient, oh là là, attention, si tu manges boudin rouge, pas bon du tout. Là, tu ne seras pas spirituel du tout si tu manges cela. Et alors, si tu manges boudin blanc, là, tu seras spirituel. Là, il n'y a pas de problème, l'Esprit de Dieu sera sur toi. Il y avait une autre tension aussi. C'est de s'abstenir de la viande, sacrifiée aux idoles. C'est à la mode aujourd'hui. Vous savez, ce qui est formidable avec la Bible, c'est que quand on lit la Bible, on se dit, elle a été écrite il y a 2000 ans, mais plus de 2000 ans pour certains textes, mais je me dis, mais waouh, elle est moderne cette Bible. La viande sacrifiée. Est-ce qu'on doit manger de la viande sacrifiée ou pas sacrifiée? À l'époque, ça mettait une tension dans l'église de Rome. Non, il ne faut pas manger la viande sacrifiée aux idoles. C'est interdit. Tu ne seras pas spirituel si tu manges ce genre de viande. Par contre, si tu manges pas de viande, si tu restes végétarien, par exemple, là, tu seras spirituel. Là, pas de problème, tu seras spirituel. Et ce qui était en train de se passer dans l'église de Rome, eh bien, c'est que l'un méprisait l'autre, et l'autre jugeait l'autre. Parce que, sur l'histoire de la nourriture, je vous l'avais dit une fois, hein, ou sur l'histoire de la vie de courante, je dirais, dans le sens des décisions que nous pouvons prendre, je me dis, ça c'est quelque chose qu'en tant que frère et sœur, on ne devrait pas apprendre à se juger. Comme je l'ai dit, et je voudrais le répéter, moi les pâtes, c'est 7 minutes, c'est al dente. D'accord? Si vous, dans votre conception, vous n'avez pas cela, c'est pas grave, c'est pas un problème. Mais, en attendant, ça ne viendra pas mettre une barrière entre ma communion, entre vous et moi. Et Paul était en train de leur dire, attention, ça peut être nuisible au sein de votre église, si vous mettez des choses qui sont et aussi élémentaires, ça va vous enlever, je dirais, le côté que le Seigneur veut que vous restiez dans le sens de la, dans le sens spirituel. Donc ça, c'est secondaire. Ça n'édifie pas. Donc nous devons construire des relations qui sont dans le sens de l'édification commune. Pas les choses qui sont dans le sens secondaire. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira dans la parole, ne jugez personne, ne méprisez personne pour ce genre de choses. Et je pense que c'est important de le signaler ce matin. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Deuxième contexte, c'est dans l'épître aux Corinthiens. Au plus je lis cette épître, au plus je vois que là aussi il y avait des tensions dans cette église. Et l'apôtre Paul, qui a aussi écrit l'épître aux Corinthiens et qui voit qu'il y a des similarités entre l'église de Rome et l'église de Corinthe, il y a à peu près les mêmes choses, eh bien, l'apôtre Paul va être obligé de leur dire dans cette église, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10, selon la grâce que Dieu qui a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Quelque part, vous construisez votre propre maison. Mais votre responsabilité, c'est de la manière dont vous devez la construire, donc la méthode, comment vous allez construire votre maison. Est-ce que vous vous rappelez de la petite histoire des trois cochons? Alors certains vont dire, alors moi, ma maison va être du béton, je vais mettre du béton de partout. Il va y avoir du béton du haut en bas, du sous-sol, même dans la cuisine. Maintenant, je peux mettre du béton dans ma baignoire, dans ma salle de bain, enfin, de partout, je vais mettre du béton. Il y en a qui disent, non, moi, pas béton. Moi, bois. C'est la mode aujourd'hui, vous savez, du bois, je veux en mettre de partout. Vous allez aux États-Unis, béton, il y en a quelques-uns dans les centres-villes. Mais si vous sortez un petit peu à l'extérieur, beaucoup de bois, beaucoup de maisons en bois, beaucoup de bois. Du bois, il y en a de partout. Du sol au plafond, du sous-sol jusqu'au premier étage, il y a du bois. Et puis il y a un troisième qui va dire non, moi pas béton, non, moi pas bois, mais paille. C'est à la mode, vous savez, la paille. On n'en trouve pratiquement plus dans les champs. Mais on veut des ballots de paille maintenant pour construire des maisons. Et les gens vont construire des maisons à la paille. Alors, j'en ai pas vu personnellement. J'aimerais bien voir un petit peu une maison en paille, comment ça se construit. Mais il doit y avoir un peu de bois quand même dans cette construction-là, à mon avis, pour qu'on la tienne ensemble, édification, dans le sens de édifier. Ça me plaît les passages que je trouve dans la parole de Dieu. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit sa maison. Vous pouvez bâtir votre maison comme vous le voulez. Dieu n'a pas forcément une méthode comment vous allez construire votre maison, mais vous devez prendre garde à la manière dont vous devez la bâtir. Voyez-vous, dans l'église de Corinthe, il y avait un petit conflit. Les uns pensaient que la connaissance tue. Avoir trop de connaissances, cela vous tue. Et c'est pas une bonne chose, ça fait pas spirituel d'avoir trop de connaissances. Par contre, les autres disaient, ah, si vous mangez de la viande sacrifiée, comme un petit peu l'exemple de l'Église, eh bien, ça peut mettre une tension dans les dons spirituels. Alors, comme ça peut mettre une tension dans les dons spirituels, faites attention comment vous allez manger ou comment vous allez grandir dans votre connaissance. À l'époque, les philosophes étaient très connus. Encore aujourd'hui, les philosophes sont des personnes très connues. Mais la Bible nous rappelle, par le biais de l'apôtre Paul, dans ce passage, « Tout m'est permis et tout n'édifie pas ». Et je pense que Paul est en train de dire, « Eh bien, attention à votre liberté. Votre liberté peut avoir une certaine limite de comment vous devez construire votre maison. » Quand j'ai construit il y a quelques années en arrière à la grande paroisse, la mairie m'a donné l'autorisation de construire ma maison. Donc j'étais très heureux de recevoir ce papier. Et le maçon devait construire exactement comment la mairie avait donné, c'est-à-dire il y avait une hauteur, il y avait une largeur, il y avait une profondeur, il y avait des choses que j'avais le droit de faire et d'autres que je n'avais pas le droit de faire. Et le maçon a fait exactement ce qui était sur le plan. Pas question de faire autre chose que ce que le plan disait. J'aurais voulu voir si ceux-là, je viens de recevoir de l'argent, je veux modifier mon plan, oui. Si tu veux modifier ton plan, il va falloir passer par l'administration et changer certaines choses. Je me souviens d'une petite guerre que j'ai eue, mais juste amicale, hein, pour l'histoire des tuiles sur mon toit. Moi, je voulais des grosses tuiles, comme nous avons à l'église de Marois, vous savez, des grandes et grosses tuiles. Non. Ici, pas question, des tuiles de 22. J'ai cherché ce que c'était des tuiles de 22. Bien, je me suis aperçu que c'était petites tuiles, petites et réduites, mais obligation de mettre ici des tuiles de 22. Je ne pouvais pas construire comme j'avais dans mon esprit de construire certaines choses. Je pense que l'apôtre Paul rappelle, autant à l'église de Rome, autant à l'église de Corinthe, la nécessité qu'il y a des règles. Et que ces règles sont aussi importantes parfois, mais que ces règles ne doivent pas nous faire prendre le dessus sur les règles. Parce que sinon vous aurez cette tendance à devenir un petit peu ce qu'on appelle traditionnaliste. D'abord la loi. C'est ce que les pharisiens pensaient au début de l'Église primitive. D'abord la loi et que la loi et rien que la loi. Ils avaient oublié la pratique dans la parole de Dieu. Ils avaient oublié l'essentiel, c'est que le Messie c'était bien Jésus et que c'était bien un charpentier qui allait venir. C'était prédit déjà 800 ans, 900 ans avant que Jésus-Christ vienne. C'est-à-dire ils avaient oublié ce qui est essentiel. Et nous en tant que chrétiens, on peut oublier sur l'esprit de certaines pratiques que nous voulons mettre en place dans notre vie, c'est-à-dire l'essentiel. Et quand on parle de l'essentiel, eh bien ça peut être toutes sortes d'autres choses que vous pouvez dire dans votre cœur. Ah ben moi, c'est essentiel d'aller au culte le dimanche matin. la famille tient-elle les alouettes? Certains vont dire, oui, oui, la famille, d'accord, le culte, d'accord, mais alors que tu me demandes de lire la Bible tous les jours, pas question. Et nous pouvons nous mettre toutes sortes de règles dans notre esprit en oubliant ce qui est essentiel dans ce que la Bible dit, l'amour. Et je pense que c'est important de le rappeler, oui, le Seigneur n'est pas contre la connaissance, n'est pas contre certaines choses, mais nous devons faire très attention que cela ne devienne pas une embûche pour notre frère. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, dans le sens la liberté du fort et la liberté du faible. Toi, tu es faible, tu comprends rien. Moi, je suis fort et je comprends tout. C'est ce qui était en train de se passer dans l'église de Corinthe. Et je pense que nous devons faire très attention dans cette pensée-là. Et puis, le dernier contexte pour ce matin, c'est le contexte de Éphésiens chapitre 4, verset 12, qui dit ceci, que le don, c'est l'apôtre Paul qui dit aussi, dans le corps du Christ, donc les membres du corps, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. C'est-à-dire que les dons ont été donnés dans un but de l'édification commune. Si Dieu vous a donné un don, c'est dans le but d'édifier l'Église. Si vous le faites tout seul à la maison, ben vous n'êtes pas en train d'édifier l'Église. Hein. Parce que tous les dons, et je l'ai déjà prêché, il y a quelque temps en arrière, tous les dons ont été donnés dans le but d'édifier l'Église. Alors j'ai toujours fait la différence entre un don et un talent. Un don, c'est noté dans la parole. Il y a plusieurs textes qui nous parlent de don. Et aujourd'hui, malheureusement, on fait l'amalgame, comme on fait parfois l'amalgame des fois entre les chrétiens. Le fruit que nous avons dans l'Ancien Testament, c'est une pomme. Combien de fois ai-je entendu ça? Mais je me dis, mais mes frères et sœurs, c'est une amalgame que ne se trouve pas dans la Bible. Peut-être le fruit, c'était une papaye, une mangue, une orange, j'en sais rien, mais le fruit n'est pas dit que c'était une pomme. Hein. Même si vous aimez la pomme, écoutez, dans la Bible, c'est pas marqué. Et souvent, entre nous, on fait des fois des amalgames qui ne sont pas tout à fait à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que ce que nous avons entendu de l'extérieur, nous le rapportons parfois dans l'Église, mais c'est des choses qui ne sont pas selon dans la Bible. Et moi, je pense que le but, c'est de bien comprendre ce que la Bible dit. Nous faisons toutes sortes des fois de mélanges, d'amalgames. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la mode aujourd'hui, c'est que Internet ou les téléphones portables prennent le dessus. Alors on va m'envoyer toutes sortes de messages en disant, ben voilà, ce qui se passe à tel endroit, à tel endroit. Mais vous savez, dans ce fameux instrument que nous avons aujourd'hui dans la modernité, il y a de très bonnes choses, il y a de mauvaises. Et nous devrions avoir le discernement de dire, ben ça c'est bon et ça c'est mauvais. Ça c'est un bon enseignement, là, celui-là il dit bien les bonnes choses selon la parole de Dieu. Mais il y a des fois, il y a du n'importe quoi. Jeter. Vous savez, vous avez la possibilité dans le téléphone de considérer quelque chose que vous avez reçu comme un spam. Donc vous le jetez à la poubelle. Et souvent on ne le fait pas. Parce que souvent on pense que du moment qu'il parle de Jésus, c'est biblique. Du moment qu'il parle de Dieu, c'est biblique. Du moment que il dit certaines choses et qu'il parle, le mot « foi » vient à chaque fois de la fin de sa phrase, c'est biblique. On est à la fin des temps. Et le Seigneur a dit clairement que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, des faux enseignants qui vont nous éloigner de la parole de Dieu. Si ça vous éloigne de la parole de Dieu, moi je dis attention, prenez garde. Prenez garde si ça vous éloigne de la Bible. Si ça ne vous éloigne pas de la Bible, tant mieux, gloire à Dieu. Mais si ça vous éloigne de la Bible, le diable est aussi un ange de lumière. Et s'il le dit, le Seigneur, c'est que quelque part, il va s'employer de temps en temps à vous éloigner de Dieu, à ne pas prendre en considération que une église, c'est un moment de partage, un moment d'édification, un moment où nous pouvons vivre la réelle communion et le partage que nous avons dans le Nouveau Testament. Le but de s'édifier, c'est le but de nous exhorter, de nous consoler, de nous faire grandir dans notre foi. J'ai toujours cru à la prière, surtout à la réunion de prière. Vous savez pourquoi? Parce que quand on prie pour quelqu'un et qu'on voit que Dieu manifeste sa grandeur au travers de la prière répondue, on peut dire que gloire à Dieu. Combien ai-je entendu certaines choses baisser les bras? Mes enfants ne viendront jamais à l'évangile. Rien que de les voir, ils ne viendront jamais à l'évangile. Mais est-ce que tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ peut transformer son cœur? Est-ce que tu prends conscience un instant dans ta vie que tu peux prendre du temps pour tes enfants? Tu peux prendre du temps en disant, Seigneur, change son cœur. Bouleverse-le comme tu m'as bouleversé à moi à un moment donné dans ma vie. Change-le. Fais que je sois quelqu'un dans cette maison qui édifie et non pas qui construit inutilement. Est-ce que nous prenons conscience de cela? J'ai reçu un petit message sur Facebook, c'est intéressant parfois. Un ami américain me disait qu'il m'a envoyé deux photos. Une photo d'une église qui était en train de se vider, et à côté, juste en dessous, c'est bien Facebook, ce qu'on peut voir les deux images en même temps. Une église qui se vide aux États-Unis et des stades qui se remplissent aux États-Unis. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans ce pays. Nos églises sont en train de se vider et les stades de foot sont en train de se remplir. J'étais dans le sud de la France. Si vous n'alliez pas à Marseille voir Marseille jouer, alors tu ne peux pas être pour Marseille, c'est pas possible. Ici, c'est le Paris Saint-Germain. Si vous n'êtes pas Paris Saint-Germain, c'est pas possible. C'est impossible. Surtout que Neymar est revenu, il marque des buts. Jusqu'à présent, il ne marquait pas de but, mais il est revenu, Neymar. Donc, il peut marquer des buts maintenant. Jusqu'à quand ça va durer, j'en sais rien. Mais, frères et sœurs, le but, c'est de ne pas remplir des stades de football. Notre but, c'est de remplir nos églises. Notre but, c'est de passer du temps à l'édification commune. Et je pense que c'est les leçons que je voudrais en retirer ce matin. Qu'est-ce que vous faites pour que votre église soit édifiée? Qu'est-ce que vous mettez en pratique dans votre vie pour vous édifier l'un l'autre, pour vous consoler? Alors, ça a du bon le téléphone. Je ne voudrais pas non plus maudire ce téléphone qui est là devant moi, qui est en train de m'enregistrer. Mais ça a du bon le téléphone. Vous savez, on invente aujourd'hui toutes sortes de choses. On peut se communiquer. Des fois, on ne se voit pas, alors on envoie des petits mots. Hier, j'ai envoyé un petit mot à Christian parce que je pensais qu'après 7 heures d'opération, il pouvait me parler comme je suis en train de vous parler ce matin. Et puis, il m'a renvoyé deux mots. Peux-tu me parler? Je lui ai dit, enfin, plusieurs questions lui ont été posées. Et il m'a envoyé deux mots, pas trop. J'ai bien compris que ce n'était pas le moment de discuter avec Christian. Ma femme souvent envoie une liste de mots, vous savez, sur ma rose d'âme ou autre chose. Et puis même à son frère, des fois, elle lui envoie des tartines de phrases. Et puis, à la fin, non merci. Ça résume tout. Je dirais, des fois, il n'y a pas besoin de faire des tartines de mots pour se comprendre que ce n'est pas le moment. Ou tu peux penser à moi si tu veux, mais là, je ne peux pas discuter avec toi. Mais voyez-vous, il m'arrive parfois de penser que dans une construction, si nous voulons construire, il faut savoir dire « c'est le moment ». Maintenant, je dois discuter. Maintenant, je dois prendre le temps de partager. Pourquoi ? Parce que dans la semaine, j'aurai peut-être pas le temps de le faire. Demain, quand on va reprendre le travail, que vous allez être obligé de vous diriger vers la gare, la future belle gare de Montereau, demain, quand vous allez prendre cette direction-là, vous n'aurez peut-être pas le temps de partager avec un frère et une sœur. Et vous n'aurez peut-être pas le temps de vous édifier. La CNCF va vous édifier, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Les bus, les transports vont vous édifier, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Pour arriver en retard, vous allez voir que la colère va être en vous à un moment donné. Mais le but, n'est-ce pas, comme la Bible le dit, c'est de s'édifier l'un l'autre. Alors prenons le temps. Et je voudrais vous encourager à prendre le temps de nous édifier mutuellement, de ne pas partir comme des sauvages à la fin du culte, mais de prendre le temps de dire peut-être à un frère, j'ai besoin d'être consolé cette semaine, pense à moi. À une sœur, j'ai besoin d'être encouragé, pense à moi. J'ai besoin que tu m'encourages, Nicolas, pense à moi, durant la semaine. Je fais la promesse, de, si vous me le demandez, de le faire. Et toutes les personnes qui m'ont demandé, pense à moi durant la semaine, la première des choses que je faisais au bureau, c'est que je pensais à la personne qui m'a demandé de penser à moi. C'est facile, hein? Je note, cette sœur, ce frère m'a demandé de penser à lui, donc je pense à lui. Voilà ce que c'est d'être édifié les uns les autres. Et nous avons besoin, n'est-ce pas, de nous édifier les uns les autres. Amen. Amen.